si gira. Silenzio.
Camera.
Motore.
Motore. Partito.
Check. Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque.
En juillet et juillet 2023, la Cinémathèque française programmait une sélection d'une trentaine de films documentaires qui ont marqué l'histoire du cinéma. À cette occasion, la professeure et historienne du cinéma Frédéric Berthet venait s'entretenir avec le public à propos de Chroniques d'un été, Jean Rouch et Edgar Morin, auquel elle avait consacré un ouvrage. Discussion avec Frédéric Berthet, animée par Bernard Benoliel.
Bonjour et bienvenue. Bienvenue à la Cinémathèque et bienvenue dans le cadre de cette rétrospective qualifiée d'indispensable du documentaire, une sélection évidemment, ça ne peut être que cela. Espérons que ce soit une première partie, une sélection d'œuvres documentaires qui ont marqué effectivement l'histoire du documentaire, c'est-à-dire l'histoire du cinéma tout court. Et puis on s'est dit que pour accompagner cette vingtaine ou 25 films indispensables, on avait envie de ponctuer cette rétrospective de rencontres, de discussions, un peu autour d'œuvres phares qui, elles aussi, marquent des dates. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Berthet pour Chronique d'un été. Ça fait un moment que je cherchais l'occasion d'inviter Frédéric. Voilà, nous y sommes. Et nous y sommes parce qu'elle a écrit un livre très étonnant il y a quelques années qui s'appelle « La voix manquante », paru aux éditions POL en 2018, qui a eu le prix du livre du cinéma donné par le CNC, et qui est un livre, j'allais dire, oui, consacré à Chronique d'un été, et en même temps pas seulement, c'est-à-dire on aura l'occasion d'y revenir lors de la discussion. C'est un livre sur Chronique d'été, et c'est aussi un livre sur Marceline Loridan, l'une des protagonistes de cette ciné-expérience. Donc voilà, mais avant toute chose, Chronique d'un été, Frédéric va en dire quelques mots. Frédéric est enseignante, elle est écrivaine, elle a publié un roman en 2020 qui s'appelle Nevers aux éditions POL, et puis bien sûr le livre dont je vous parlais, La voix manquante, sur le film que nous allons voir. Après la projection, on aura ensemble une discussion avec elle et avec vous, mais peut-être Frédéric, quelques mots pour, j'allais dire, commencer à présenter cette ciné-expérience de l'été 1960 et peut-être, oui, ce qui a initié cette envie d'aller vers les gens.
Merci beaucoup pour cette invitation et voilà, je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Donc, comme vous le savez ou comme vous allez le découvrir, Chronique d'un été est un film d'aventure. C'est une aventure que Jean Rouch et Edgar Morin inventent chemin faisant. D'avril 1960 à l'automne 1960, et ils inventent cette aventure en embarquant une vingtaine de jeunes gens à inventer avec eux un film dont ils ne savent pas exactement finalement comment il va se dérouler, où il va les conduire, si ce n'est qu'ils ont une question bien précise qu'ils souhaitent fédératrice, à savoir la question « Comment vis-tu ? Comment tu te débrouilles avec la vie ?» Alors, on peut juste dire peut-être avant de commencer que Jean Rouch et Edgar Morin, ce sont deux hommes de cinéma qui se sont rencontrés dans un festival, plus particulièrement pour définir ce projet, donc à Florence, à la fin de l'année 1959. Jean Rouch est donc africaniste, spécialiste des Dogons, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un ethnographe et c'est quelqu'un qui fait des films ethnographiques, mais aussi des films qui sont plus que cela, on pourra y revenir. Donc il cherche, il est au CNRS, il cherche avec les films, ce qui est relativement original sur cette période-là. Morin est également au CNRS au même moment, c'est un sociologue et c'est un cinéphile, c'est quelqu'un qui a vu énormément de films, y compris à la Cinémathèque française. Et il écrit sur le cinéma, ce qui est assez original là aussi au CNRS, puisqu'il s'est consacré à une chose très inattendu à ce moment-là, à la fin des années 50, la façon dont les spectateurs, dont vous et nous dans quelques instants, se retrouvent en situation d'identification ou de projection sur les personnages qui sont à l'écran. Donc on a deux hommes de cinéma, deux hommes qui connaissent et qui aiment les films et qui se lancent dans une aventure. Et quand ils commencent donc cette aventure, il y avait l'idée de faire un film sur l'amour. Puis ça semblait plus compliqué, donc peut-être un film sur la façon dont on est ou pas heureux, dont on se débrouille avec le temps en 1960. Et puis vous verrez si finalement c'est pas un film sur l'amour et sur l'année 1960. Et ce film commence en mettant au centre du cadre une jeune femme très singulière qui a 30 ans quand le film commence et qui s'appelle Marceline. Et qui va occuper, disent les deux cinéastes, une place particulière, une place intime. Alors, de quelle intimité s'agit-il ? En fait, il y a beaucoup d'intimité à tiroir dans ce film. Et on va vous inviter à les voir et revoir.
Tout de suite, on va commencer la projection. Mais avant tout, je vous rappelle que vous avez droit à un bonus avant le film, puisque c'est aussi aujourd'hui le 150e anniversaire de la naissance d'Alice Guy, cinéaste pionnière française du tout début du cinéma. Et donc pour célébrer ce 150e anniversaire de sa naissance, la Cinémathèque a décidé que toutes les séances aujourd'hui, que ce soit en salle Franju ou en salle Langlois, que ce soit suivi d'un film de Minelli ou de Chronique d'un été, seraient précédées d'un court film d'Alice Guy. Donc là, vous allez voir pendant 6-7 minutes un film d'Alice Guy de 1906 qui s'appelle La Marâtre, d'après Balzac. Et c'est notre manière à nous de saluer cette pionnière de l'histoire du cinéma et du cinéma tout court. Et ensuite, on enchaînera sur Chronique d'un été et on se retrouve après. Merci, bonne projection et à tout à l'heure. Voilà, peut-être quelques précisions pour commencer. Donc Frédéric Berthet l'a dit au début, je le redis avec des dates, c'est donc un film tourné en 1960, entre mai et octobre 1960, monté longuement entre septembre 60 et avril 61. Un premier montage, il y a eu plusieurs montages, mais en tout cas un premier montage est montré au Festival de Cannes en mai 1961 et le film sortira en salle en octobre 1961. Voilà pour la temporalité, donc 60-61. Et en discutant avec Frédéric, on s'est dit que peut-être ce qu'il est importé de faire pour commencer à comprendre un peu de ce qu'a été cette expérience et cette méthode, c'est de revenir un petit peu avant, c'est-à-dire en janvier 1960, à un moment où Edgar Morin a l'idée de cette expérience cinématographique, en parle à Jean Rouch lors d'un festival qui se déroule à Florence en décembre 1959, et en janvier donc 1960, dans le journal France Observateur, Edgar Morin publie un texte, donc on est 3-4 mois avant le début du tournage, Edgar Morin publie un texte qui est littéralement un manifeste et qui s'intitule « Pour un nouveau cinéma vérité » et dont je vous lis quelques extraits parce que je pense que ça explique en tout cas quelle était l'ambition ou quelle était la visée. Et avec Frédéric, on pourra revenir décrire plus avant la méthode et la genèse du projet. Je vous lis quelques passages de ce texte manifeste d'Edgar Morin. Il y a une vérité que ne peut saisir le film romanesque. Alors, film romanesque étant le film de fiction. Il y a une vérité que ne peut saisir le film romanesque et qui est l'authenticité du vécu. Le cinéma soviétique de la grande époque, puis des films comme Le voleur de bicyclette, La terre tremble, donc les films néoréalistes, ont tenté à la limite de faire jouer à certains individus leur propre vie. Mais il manquait de toute façon le je ne sais quoi d'irréductible qui se trouve dans le, entre guillemets, pris sur le vif. À l'opposé, les actualités nous présentent une vie endimanchée, officielle, ritualisée, poignée de main d'homme d'État, discours. Parfois le hasard, la chance, place dans son champ un visage crispé ou rayonnant, un accident, un fragment de vérité. Cette prise sur le vif est le plus souvent une prise sur la mort. En règle générale, la caméra est trop lourde, n'est pas assez mobile, l'appareil sonore ne peut suivre et le vif échappe ou se ferme. Le cinéma ne peut pénétrer dans l'intimité de la vie quotidienne vécue. Le cinéma vérité était donc dans l'impasse. L'ensemble du cinéma documentaire restait à l'extérieur des êtres humains, renonçait à lutter sur ce terrain avec le film romanesque. Y a-t-il quelque chose de changé depuis quelques années ? Encore une fois, ce que je vous lis est un raccourci du texte. Et là, Edgar Morin dit « Les films, qu'y a-t-il de nouveau ? Les films déjà bien connus de Jean Rouche. » Le grand mérite de Jean Rouche est d'avoir défini un nouveau type de cinéaste, le cinéaste scaphandrier, qui plonge dans un milieu réel. Se débarrassant des servitudes techniques habituelles, Jean Rouche, muni d'une caméra 16 mm et portant son magnétophone Nagra en bandoulière, peut désormais s'introduire en camarade et individu, non plus en directeur d'équipe, dans une communauté. Il accepte la maladresse, l'absence de relief du son, l'imperfection de l'image. En acceptant de perdre une esthétique formelle, il découvre des terres vierges, une vie qui possède en elle-même ses secrets esthétiques. Le nouveau cinéma vérité qui se cherche possède désormais sa caméra stylo qui permet à son auteur de rédiger seul son film. Caméra 16 mm, magnétophone portatif, il a ses pionniers qui veulent pénétrer au-delà des apparences, des défenses, entrer dans l'univers inconnu du quotidien. Son véritable père est sans doute beaucoup plus Flaherty que Dziga Vertov. Peut-on maintenant espérer des films aussi vraiment humains sur les ouvriers, les petits bourgeois, les petits bureaucrates, les hommes et les femmes de nos énormes cités ? Ceux-ci doivent-ils nous demeurer plus étrangers au cinéma que Nanouk l'Esquimau ? Le cinéma ne peut-il être un des moyens de briser cette membrane qui nous isole chacun les uns des autres, dans le métro ou dans la rue, dans l'escalier de l'immeuble ? La recherche du nouveau cinéma vérité est du même mouvement, celle d'un cinéma de la fraternité. Voilà le projet, voilà l'ambition, voilà quel était le manifeste. Est-ce que d'une certaine manière, moi quand je le lis, j'ai le sentiment que le film, en tout cas dans sa visée, dans ce qu'on en voit, dans ce qu'il atteint, n'est pas si loin de ce manifeste, j'allais dire théorique, posé par Edgar Morin. Est-ce que tu pourrais, est-ce que toi tu as aussi cette impression, ou disons à travers ce qu'on peut décrire de la méthode du film, que finalement le film accomplit les buts du manifeste?
Je crois qu'effectivement c'est déjà un texte qui est très bien écrit, donc c'est toujours intéressant de l'entendre. C'est intéressant aussi, puisque tu parlais de la façon dont la méthode s'engage, de voir que, alors que Jean Rouche et Edgar Morin ont commencé à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire finalement des Parisiens une tribu de type ethnographique plutôt que l'Afrique, est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer le curseur et nous finalement rassembler des gens autour de nous qui feraient tribu et qu'on pourrait effectivement observer à la fois d'entomologiste. Mais il y a, à travers ce projet-là également, l'idée en effet de créer quelque chose de l'ordre de la fraternité, c'est-à-dire engager des gens qui puissent finalement participer, transformer, mais aussi surprendre ceux qui ont l'idée du film. Donc c'est la méthode déjà, ce texte, parce que c'est à la fois possiblement un manifeste, mais c'est aussi une manière pour Edgar Morin de se préparer, d'imaginer, de préciser. Pendant ce temps-là, que fait Rouche ? Il est en train de faire des films, et lui, sa manière de se préparer, c'est d'être en acte, en effet, sur des tournages. Donc ce texte, c'est un manifeste du point de vue de la visée, avec cette idée qu'en effet, il y a un désir en fait, d'en savoir plus sur qui sont les gens. À la fois, qu'est-ce qu'ils se pensent, mais qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, en lien avec d'autres, en lien avec leur statut professionnel, en lien avec la société qui les entoure. Donc ça, c'est vraiment une question qui taraude absolument Edgar Morin, qui n'est pas forcément la question de Jean Rouche. Et lui, une manière de se préparer, c'est donc d'écrire, hein, d'imaginer. Hein, il a travaillé sur l'homme et l'imaginaire au cinéma, mais c'est aussi un homme qui imagine beaucoup ce que pourrait être le cinéma. Donc c'est à la fois de la théorie, dis-tu, mais à mon avis, c'est aussi des projections imaginaires. Et c'est aussi une des grandes forces d'Edgar Morin, et ça va être une manière aussi différente qui vont être de conduire en fait toute cette aventure de cinéma lorsqu'elle va s'engager à partir du mois d'avril, c'est que chacun imagine différemment à la fois ce qu'ils sont eux-mêmes, ce que sont chacune des personnes qui les entourent, mais ce que ça peut être un projet de film. Mmh. Alors, ce qu'on peut aussi dire du point de vue de la méthode, c'est que cette question de la vérité, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans l'année 1960. À la fois, il y a l'idée de la vérité du cinéma, donc avec des outils légers, hein, comme Morin le dit dans ce film. Jean Rouche travaille avec la Caméflex. Il va y avoir toutes sortes en fait de dispositifs techniques qui vont changer dans le tournage. Au début, les scènes d'intérieur, ils les font avec une Ariflex qui blime, c'est-à-dire qu'ils mettent avec une petite couverture pour qu'on n'entende pas le son quand on l'enregistre, puis ils ont un magnétophone. Ensuite, il y a les scènes magnifiques qui sont faites chez Renault. Elles sont en 35 mm, faites au téléobjectif par Raoul Coutard, qui est le chef opérateur d'À bout de souffle, film de fiction, et qui donc fait ces plans absolument sublimes. Et puis, on a aussi Michel Brault. Vous avez vu au générique à l'image, mais qui est aussi réalisateur, qui est une cheville ouvrière en fait de l'Office national du film, qui est très en avance relativement à la question de la vérité au Canada, au Québec. Et donc vous avez la Cinémathèque a montré un film dans le cadre de cette rétrospective et qui vient au mois d'août 1960 avec fabuleux trésor des micro-cravates que n'avait pas du tout la production jusqu'à maintenant, et il va équiper notamment Marceline Loridan sur la scène de la 15 août, mais il va aussi équiper les deux personnages qui vont être en bikini, Landry et puis Sophie à Saint-Tropez. Et puis on a encore un autre matériel qui arrive sur le tournage, qui est une caméra qu'on appelle la KMT, qu'on va utiliser en fait pour tout ce qui est les petits micro-trottoirs que vous voyez au début du film et qui sont en fait faits quasiment à la fin à l'automne et qui permettent justement d'avoir un matériel son et image portatif mais aussi silencieux et léger. Donc en fait cette expérience de cinéma qu'appelle de ses voeux Edgar Morin, c'est de la théorie, mais c'est aussi de la pratique, c'est-à-dire quel outil on va avoir pour finalement se rapprocher de cette idée qui est être le plus près des gens, c'est-à-dire que font les Français en termes culturels français, ils se réunissent à table, chez eux, ils se font à manger, à boire, et donc on va créer une espèce de condition, en quelque sorte, qui va leur permettre de parler, de se livrer, mais aussi de se désinhiber. Plus on a bu, plus les films avancent dans la nuit. Vous avez vu qu'on a souvent on voit un peu la nuit à travers les fenêtres. Et finalement, les gens sont un peu enivrés et se livrent différemment. Donc ça, c'est aussi une des méthodes. Donc il y a cette dimension théorique. Il y a une dimension extrêmement pratique. Et ça, Edgar Morin tenait beaucoup à la dimension de la commensalité, boire et manger. Mais il y a aussi l'idée de l'intimité, de filmer à l'intérieur, chez des gens qui vont se sentir à l'aise, parce que reçus, hein, quand vous venez chez quelqu'un, ce n'est pas comme quand vous êtes filmé, effectivement, à l'extérieur. Donc, cette dimension théorique, je pense que c'est aussi une dimension très pratique. Et on la retrouve donc à différents niveaux dans le film. Et cette question de la vérité, je le disais, la différente forme d'acception en 1960, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup. Il y a notamment beaucoup de revues qui ne sont pas de cinéma et qui s'appellent Vérité, Vérité Liberté, Vérité Anticolonisme, etc. Notamment des revues de type politique, plutôt de gauche, et qui militent contre la guerre d'Algérie. Donc en fait, ce vocable de la vérité et cette société qui cherche la vérité, c'est-à-dire comment se désaliéner du travail, comment réinventer les couples, comment réinventer ce que c'est qu'un jeune, etc. C'est pas 68, c'est pas 66, mais on sent que ça tiraille dans la société. Et donc cette question de la vérité, c'est une recherche de cinéma, mais c'est vraiment une question beaucoup plus globale en fait. Et c'est vrai que nous, on a cette entrée cinéma, Tiga Vertov, le cinéma vérité, mais Morin, c'est à la fois ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui connaît extrêmement bien la situation politique de son temps. Et on peut peut-être dire juste un mot et tu vas me relancer ou me recadrer. Pour ceux qui ont vu ou qui verront Nanouk l'Esquimau, qui est un des films qui est présenté le week-end dernier, Jean Rouche est vraiment quelqu'un qui était très admiratif en fait, de Robert Flaherty, qui avait donc fait ce film en 1922. avec une communauté inuite, un film absolument sublime qui suit donc cette communauté dans le Grand Nord. Et le film que vous avez vu là décalque vraiment très précisément, mais déplacé 40 ans plus tard, un certain nombre de préceptes. Notamment, vous entendez au début de Chronique d'un été, ce film n'a pas été joué mais vécu. C'est exactement le carton, mais les mêmes mots qu'écrit Flaherty en 1922. Flaherty dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va impliquer les Inuits qu'on filme. C'est-à-dire qu'à la fois, je vais les filmer, mais je vais leur montrer comment je les filme en introduisant dans le film régulièrement des moments de projection, de rush. Ils vont voir ce que ça donne et ça va les aider à se repositionner. Il y a exactement ça dans ce film. D'où peut-être le sentiment que vous avez à certains moments que des scènes se répondent. Et notamment, à un moment, il y a une scène où Marceline Redon est très affligée à côté de Jean-Pierre Sergent. Et c'est comme si elle avait absorbé complètement les postures de la précédente Marie-Lou qu'elle avait vue avant. Donc ça, c'est aussi complètement du Flaherty. Et puis l'autre chose, c'est l'idée de la méthode participative qui vient aussi de Flaherty, mais qui est complètement aussi redéployée dans le cadre des années 60. C'est-à-dire, on est quand même dans un moment où la question de la désaliénation sous toutes ses formes est très importante. Et donc, on a Rouge qui est né en 1917, Morin qui est né en 1921, qui ont envie de créer, d'être pas les vieux cinéastes qui sont là, mais ils ont envie de créer quelque chose pour être vraiment en prise avec ces jeunes gens qui les entourent et donc les faire participer, faire en sorte que finalement, à la fois ce qu'ils disent, mais ce qu'ils vont pouvoir critiquer en fait de ce que sont Morin et Rouche, modifie finalement leur position de départ. Donc ils ont envie d'apprendre. Hein. Ce n'est pas des questions justement théoriques. Et je crois qu'il y a une vraie sincérité et c'est ce qui fait que cette fin d'article que tu as lu sur ce désir de fraternité, je pense que c'est vraiment une chose qu'on sent dans le film. Ils ne sont pas du tout en surplomb. Ils ne pensent pas qu'ils ont plus raison. Mais ils sont très différents, Rouche et Morin. Il y a vraiment un vrai intérêt et un vrai amour. Aussi, une vraie amitié pour ceux qui acceptent d'être avec eux, même s'ils ne sont pas d'accord. Même quand Morin dit « Mais c'est impossible ce que dit Maxi. Comment est-ce qu'on peut être contre la vérité du lien entre les gens ?» Malgré tout, en fait, il n'y a pas du tout de rejet. Elle est là jusqu'au bout et elle fait partie du film. Elle n'est pas coupée. Donc il y a quelque chose qui les intéresse énormément de faire en sorte que leur vie, le cinéma, mais la vie de chacune des personnes qui soient là, soit différente entre avril 60 et octobre 60. Et ça, je pense qu'ils ont réussi. Ils ont réussi aussi parce que c'est toujours très intéressant de voir un peu les réactions de la salle. Et je trouve ça magnifique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des endroits où, depuis des dizaines et dizaines d'années, les spectateurs rient au même endroit, alors qu'évidemment, les années ont passé, nos codes ne sont plus les mêmes, on ne voit pas le film de la même manière, mais il y a vraiment des choses qui sont, de ce film passé, sans cesse réactivées au présent, et peut-être parce qu'ils ont su vraiment à la fois rendre les participants présents, mais saisir quelque chose d'une forme de direct, qui fait que régulièrement, même si c'est un vieux film, on est saisi en direct.
Non, là, tu as dit vraiment beaucoup de choses, et tant mieux. Et je me reviens dans ce que tu as dit, au moins deux choses. La première, effectivement, sur laquelle il faut sans doute insister, c'est que dans leur ambition, dans leur idée, c'est un parcours participatif, y compris pour le spectateur. C'est-à-dire qu'ils en espèrent, par effet de projection ou d'identification, que ça provoque un changement dans les mentalités, y compris de ceux qui voient le film. Et sans doute que leur espoir, me semble-t-il, était qu'en faisant ce film à l'été 60, alors que la guerre d'Algérie déchire tellement la société française, qu'il se passe finalement quelque chose du côté de l'Algérie et du dénouement de cette guerre à l'été 60, et que, j'allais dire, le macro rejoigne le micro, et que dans le film, il y ait presque concordance entre l'évolution des personnages et l'évolution de la société dans ces enjeux. Mais je crois que c'est Morin, quelque part, qui dit, malheureusement, il ne s'est rien passé de cet ordre-là au cours de cet été. Mais on voit bien que le projet est d'être partie prenante d'une histoire, qu'elle soit intime ou politique, et que ça produit, que le cinéma est un effet, quoi. C'est aussi un moment où on croit que le cinéma est un film, peut changer quelque chose ou peut changer quelqu'un. Et puis l'autre chose que tu as dite et qui me paraît très juste et qui va dans le même sens, c'est que avec le prisme du cinéphile, on a tendance effectivement peut-être à réduire le mot vérité à cette expression cinéma vérité qui a tant fait débat dans les années 60. Je vous j'y pense, je le dis maintenant, si cette question du cinéma vérité, du cinéma direct vous intéresse, en plus du livre de Frédéric, bien sûr, il y a un livre qui a paru il y a une dizaine d'années aux presses universitaires de Rennes, un livre de Séverine Graff qui s'appelle « Le cinéma vérité », film et polémique ou film et controverse, et qui fait un peu le point tant sur les films que sur la production théorique et écrite de ces années où cette question du cinéma vérité a tellement été débattue. Et tu as raison de dire que le mot de vérité est à l'époque le titre de revue qui n'a rien à voir avec le cinéma, et qu'en fait, il y a une recherche. En fait, on a tellement sans doute le sentiment dans les années, au début des années 60, que le pouvoir ment par rapport à la guerre d'Algérie, que en fait, la vérité devient presque un étendard politique ou un horizon, quelque chose qu'il faut rejoindre pour justement y voir clair et que le cinéma y travaille.
Alors, si je m'éloigne, tu m'y ramèneras, parce que je voudrais, relativement à la question du cinéma vérité, peut-être de parler du producteur Argos, y compris qui est présent dans la rétrospective, mais peut-être que sur cette question du contexte, vous avez vu aussi que dans le montage du film, on commençait vraiment avec des questions plutôt du travail, la question des ouvriers, très précisément, notamment des OS, hein, et de la parcellisation des tâches, de la dimension de l'aliénation qui revient beaucoup. On passe à la question du logement, et puis en effet à des questions plus personnelles qui parfois, effectivement, peuvent paraître peut-être moins... disons neuve aujourd'hui, on est passé par la télé-réalité, les réseaux sociaux, les confessions, etc. Mais il y a vraiment là un effort à faire critique pour se dire qu'à ce moment-là, la façon notamment dont ces deux femmes parlent, c'est vraiment du jamais vu et du jamais entendu, et qu'en fait, Jean Rouch notamment expliquait qu'ils étaient abasourdis. Et on voit que les plans durent, mais parce qu'en effet, à ce moment-là, ils disent qu'il se passe quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas, pour le coup, anticipé, et donc ils vont devoir faire avec ça. Et ça, c'est aussi très intéressant par rapport à la question du cinéma vérité, parce que ces deux hommes-là sont deux hommes qui ont une très grande attention à la question du femme et des féminins, alors dans ce contexte, avec ces femmes qui sont là à ce moment-là. Mais il y a quelque chose d'assez singulier sur une sorte de parole, et on voit qu'elles-mêmes, elles essaient de trouver leur propre identité. Et puis, il y a ce que vous avez vu, c'est-à-dire la manière d'essayer de rappeler le collectif, hein, autour de dîners qui sont guidés par des thématiques de type politique. Et c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure... Boutade ou pas, qu'un des projets d'Edgar Morin initialement était de dire faisons un film sur l'amour, mais il y avait aussi cette idée-là. Ils savent que la guerre d'Algérie est à un tournant. Il y a l'idée qu'en lançant ce film, il y a quelque chose qu'ils vont à la fois accompagner, et là aussi peut-être de la vérité du changement d'histoire qu'ils vont pouvoir effectivement mettre dans le film. Et on peut avoir en tête qu'au moment où paraît le texte d'Edgar Morin que vous a lu Bernard Benoliel, on a quasiment au même moment en fait Massu qui a été renvoyé d'Algérie.
Général Massu.
Et on a entre janvier et février, en fait, des barricades dans Alger, et donc une montée aussi extrêmement forte du côté de l'OAS. Et on a, en fait, dans le temps du film, les pourparlers, en fait, de Melun. Ça passe très, très vite dans les journaux que vous avez vus. Il y a les pourparlers de Melun où on essaye, en fait, du côté du gouvernement français, d'essayer de trouver une voie, en fait, d'accord avec le FLN qui échoue au mois de juin. Donc il y avait cette idée, on va arriver à accompagner aussi cette vérité-là, qui pour nous n'a évidemment plus la même acuité, mais qui est évidemment un présent extrêmement intense pour 60, c'est-à-dire des gens qui connaissent la France comme étant un empire colonial depuis la fin du 19e siècle, et qui en direct assistent à la manière dont on modifie complètement ce que c'est le rapport entre colonisé et colonialité, mais aussi le rapport à ce que c'est que la France. D'où ces choses qui reviennent sur c'est vaseux la France, ou tu es vaseux, ou qu'est-ce que c'est que la France, hein, c'est vraiment, je pense, une chose très, très précise. Et c'est vrai que vous avez une petite partie du dîner Algérie, et en fait dans les rushs que moi j'ai écoutés, c'est en fait la séquence qui a pris le plus de temps, c'est là où il y a le plus de bobines, c'est vraiment là où il y avait un enjeu extrêmement fort, et puis pour différentes raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir, ça n'a pas été
monté. Parce que ça n'a pas été monté, parce qu'ils ont anticipé en quelque sorte la censure.
Voilà.
Et comme ils espéraient que le film évidemment sorte, plus on donnait de place à la guerre d'Algérie, plus il y avait de chances que le film soit censuré et donc invisible.
Voilà, donc en fait, c'est aussi ça la force du film, c'est qu'en fait, et on le reverra avec la séance pour Marceline Loridan, c'est qu'en fait, il dit pas tout. vous n'avez pas une descriptif absolu du monde ouvrier, ou vous ne savez pas comment fonctionnent complètement les usines Renault, on ne vous donne pas un descriptif absolu de la guerre d'Algérie. Mais la manière dont justement on laisse malgré tout circuler à la fois des éléments factuels mais aussi des éléments émotionnels, on apprend beaucoup en fait par ces jeux d'interaction. Et donc ce qu'on sait aussi après, c'est qu'il y a en fait des tensions sur la position vis-à-vis d'Algérie. Vous avez entendu quelqu'un qui est du côté en fait de l'équipe technique qui à un moment en fait apparaît et qui dit mais la France a des droits sur l'Algérie. Mais en fait autour de la table, tous ceux qui sont aussi plus pour l'indépendance n'ont pas du tout le même avis, notamment vis-à-vis du FLN. Et par exemple, il y a des gens qui sont autour de cette table qui signeront le manifeste des 121 dans la revue Vérité et Liberté au mois d'octobre, mais Morin et Rouge pas du tout, parce qu'ils n'ont pas ce point de vue-là sur le rapport au FLN. Donc en fait, il y a de multiples tensions et cette question de la censure, mais aussi une autre question qui nous ramène au cinéma, c'est que quand on veut faire un film sur la vérité du présent, il faut aussi faire en sorte que quand le film sort en salle, il n'ait pas l'air d'être passé. Donc tout ce qui pouvait être aussi trop daté pouvait être aussi quelque chose qui nous dise bah, « oui, c'est déjà passé, nous on est ailleurs ». Donc il y a cette espèce de tension, faire en sorte que les spectateurs d'Octobre 61 aient l'impression de voir aussi une vérité qui n'est plus datée d'un an et demi, mais qui presque comme si le film devenait de se finir là, alors que ça fait un an et demi qu'il est au montage.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu différents montages entre le Festival de Cannes, la sortie, peut-être au nom de cet ajustement dont tu parles.
Alors, il y a des ajustements de montage, mais parce que finalement, ça arrive toujours, vous savez que quand les films sortent, parfois, notamment à Cannes, il y a du remontage, parce qu'on se dit, oh là là, la réaction là, quand ça va sortir en salle, ça ne va pas passer. Et évidemment, on veut que le film marche. Donc, il y a effectivement un certain nombre de réactions qui entraînent une nécessité de remonter le film. Mais c'est aussi parce qu'il y a, en fait, assez vite, une grande différence de point de vue sur la façon dont le film doit être monté selon Rouge ou selon Morin. Donc Jean Rouge veut le faire en quelque sorte sur la lancée des films qu'il fait, donc à la fois des ethnofictions, des films ethnographiques. Il veut une espèce de ligne très énergique. C'est son montage en quelque sorte qui l'emporte là. Mais Edgar Morin était tellement attaché justement à cette expérience qu'il avait vraiment vécue. Et lui, c'est son premier film, et ça sera aussi son dernier film à ce moment-là vraiment de long métrage, c'est très très important. Et donc il a fait toutes sortes de maquettes de montage jusqu'à 5 heures de film, 3 heures de film, 2 heures de film, bon d'accord 1h40 mais bon pas 1h26, donc voilà, il y a eu des montages comme ça. Mais c'est aussi pour vous dire que ce présent du film il continue aujourd'hui, puisqu'en 2011, vous avez vu, la copie que vous avez vue aujourd'hui a été restaurée magnifiquement en 2011 par l'image Retrovato. Et en fait, en 2011, donc, les producteurs Argos Film, Florence Daumont, la fille d'Anatole Daumont, a fait un nouveau montage en ressortant des rushs, donc des choses dans les 25 heures tournées que donc vous ne voyez pas, en remontant des séquences qu'elle a mises dans un film. Il y a aussi eu Hernan Rivera qui a remonté une partie d'autres rushs en faisant des entretiens avec des acteurs et actrices du film. Et puis François Buchet qui a réalisé un des vœux d'Edgar Morin, c'est-à-dire en fait il a fait un film de 6 heures et on voit Edgar Morin avec un petit casque lire en fait le texte qu'il a écrit après Chronique, parce que ça lui est resté un peu en travers de la gorge, c'est 1h26, donc il a fait un livre en 62 après Chronique où il transcrivait un certain nombre de rushs qui n'étaient pas montés. Et donc en 2011, un film dure 6 heures, et ça s'appelle Chronique d'un film, et on voit Edgar Morin avec son casque et il lit son texte, et pendant ce temps-là on voit jusqu'à 6 heures de rush de ce que vous avez vu. C'est pour vous dire que ça crée du désir de voir et du désir de réactualiser. Et puis je disais à Bernard juste avant de rentrer dans la salle, peut-être que vous avez vu cette pièce de théâtre que j'ai trouvée magnifique. Si elle ressort, je vous encourage à la voir, qui a été faite par Simon Roff, qui est un jeune metteur en scène et comédien et qui a fait Chronique d'une jeunesse qui a été présentée à la Maison de la Culture 93. Et en fait, il a utilisé Chronique d'un été comme une espèce justement de méthode un peu pour la jeunesse. Et ça, je trouve que c'est intéressant, la façon dont il fonctionne aussi sur les jeunes. Et donc, sa pièce de théâtre consistait donc à voir ce film. Ils ont montré sur la pièce certains passages et ils remiment des différents types d'enquêtes qui sont décrites dans le film. Mais surtout, il s'est servi de cette méthode de « comment vivez-vous ? Êtes-vous heureux ?» Vous voyez, des questions énormes. Enfin, la philosophie entière s'occupe de ça, mais qui sont traitées d'un point de vue un peu pratique. Voilà. Comment tu te débrouilles tous les jours ? Là, on n'arrive plus à répondre « es-tu heureux ?» Toutes ces types de questions-là, ils les ont remis en scène avec des jeunes gens, une jeune équipe, et ils se sont dit, bon ben nous, aujourd'hui, on ne va pas aller à la place de la Concorde, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le stop. Et donc, ils ont embarqué des comédiens qui sont partis seuls ou en couple. Ils ont fait du stop, ils ont discuté avec les gens en autostop, ils les ont enregistrés, ils se sont fait offrir un coup à boire, un coup à manger, et avec tout ce matériel-là, ils ont recréé, en fait, une sorte de nouveau texte. Donc, c'est pour dire que par rapport au film de la rétrospective, il est un parmi tant d'autres, mais il est peut-être un des rares qui suscite autant de remontage et de relance en quelque sorte au présent, mais de manière très inattendue.
Mais peut-être avant de vous donner la parole, en venir, parce que quand tu dis les métamorphoses du film, il y en a une que tu n'as pas citée, c'est, on pourrait dire, c'est ton livre. C'est-à-dire que littéralement, il relève du même processus. Ton livre est en deux parties. La première est entièrement consacrée au film de 1960, et la deuxième, enfin, il est consacré, la première partie, au film de 1960, en particulier sous l'angle choisi de Marceline Loridan. Et dans la deuxième partie, tu n'es pas à ce moment-là historienne du cinéma, mais historienne tout court, puisque ce que tu vas raconter dans la deuxième partie, c'est la vie de Marceline Loridan, puisque le film la prend en 1960, donc au milieu, en quelque sorte, de sa vie. Et ce que tu vas raconter, c'est ce qui précède, ce qu'elle évoque de manière parfois elliptique, mais ce qu'elle évoque dans le film et que tu vas raconter. Et puis, tu vas raconter aussi la suite de la vie de Marceline Loridan. Et donc, d'une certaine manière, à t'écouter, quand on pense à toutes les formes ou toutes les métamorphoses ou les métaformes du film, le livre aussi est un produit de ça. Et est-ce qu'on peut peut-être, ou est-ce que tu peux justement évoquer la figure de Marceline Loridan, parce que dans le film, elle a d'emblée, on peut dire, et pour tout le film, une posture un peu particulière. C'est presque un film à 2+1. Elle est, comme tu dis au début, entre deux. Hein, quand elle apparaît, elle est entre Edgar Morin et Jean Rouch, et on est chez elle. Et d'une certaine manière, c'est un peu la troisième réalisatrice du film. Enfin, elle fait partie de l'équipe. Et en même temps, elle est, comme les autres, interrogée.
Donc effectivement, vous l'avez probablement senti, elle occupe une place particulière. Moi, ce qui m'a frappé au bout d'un moment, à force de voir et revoir le film, c'est vraiment justement la manière dont le film, finalement, affiche ce qu'il a retiré de l'expérience du cinéma. À la fois, on sait ce qu'ils ont vécu, mais en même temps, on a des coupes très claires qui font qu'on sait qu'il nous manque du temps et que eux, ça a continué et que des choses se sont passées. Et moi, ce qui m'a beaucoup émue à un certain moment de visionnage de ce film, c'est qu'on passe dans cette première séquence où elle est entre eux deux, de moments où elle a un corps extrêmement un peu pétrifié, un peu retenu, des moments de timidité, à des moments où on ne la voit plus, où elle a une voix extrêmement allègre. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on passe de ça à ça ? Quelle émotion elle a traversée ? Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai écouté des rushs, et notamment le fait qu'en fait, ça dure pendant pratiquement une heure, où elle parle du mal-être qu'elle a lié à la déportation, au fait qu'elle a été déportée à Auschwitz, le fait qu'elle fait des cauchemars, le fait qu'elle se dit, mais comment est-ce que je peux continuer à vivre, et même de regarder des vitrines, à essayer des vêtements en ayant ce que j'ai vécu. Enfin, elle est vraiment dans une chose très très douloureuse, qu'on voit absolument pas au début du film, mais qui a été dit entre trois et qui finalement va travailler en quelque sorte les coulisses du film jusqu'à ce qu'elle trouve une manière finalement d'apparaître. Donc, sans vous raconter tout le livre, ce qui est de particulier aussi qui marque l'année 1960, c'est que c'est une jeune femme qui rentre au cinéma. Les femmes sont surtout actrice ou script ou monteuse hein, à cette époque-là au cinéma. Elle est engagée comme régisseuse d'extérieur, comme participante au psychosociodrame qui vont réunir les participants, c'est dans son contrat, c'est elle qui doit faire en sorte que les gens parlent, et puis en fait c'est elle qui livre le studio, parce qu'en fait une très très grande partie, voire la quasi-majorité, mis à part quelques scènes chez Edgar Morin, de scènes d'intérieur, sont faites dans son appartement qui devient un studio de cinéma, et selon les jours et selon les personnes, on tourne la caméra par là, ou par là, ou par là, pour avoir l'impression que c'est plus ou moins différent. Donc elle est vraiment une cheville ouvrière très importante, et le producteur Anatole Demont, d'ailleurs, lui avait écrit un mot vraiment magnifique, elle lui avait dit qu'elle avait été la servante au grand cœur de dîners euphorisants. Enfin bon, elle a vraiment joué un rôle très important, et aussi très important, puisque c'est la première fois qu'on voit apparaître à l'écran une chose qui... pour nous, est aussi très commune maintenant depuis les années 1980, qui sont les années de mémoire, où on invite en fait les anciens rescapés, notamment juifs d'Auschwitz, à parler de leur vécu. À ce moment-là, la dimension du vécu relativement au témoignage n'est absolument pas la règle. Et en fait, Edgar Morin et Jean Rouch sentent qu'il y a quelque chose de singulier avec cette jeune femme, mais ils ne savent pas forcément exactement comment s'y prendre. En même temps, ils ont l'intuition qu'il faut faire avec, et elle a aussi l'intelligence et la connaissance du cinéma pour arriver finalement à proposer quelque chose qui reste dans le film, puisque ces moments à la Concorde et au Hall, dans toutes les hypothèses de montage qu'ont fait Jean Rochette Garmorin, à aucun moment il n'a été imaginé que cette séquence part. Tout de suite, il savait que cette séquence c'était une sorte de soleil ou de roue autour duquel le film devait finalement tenir. Donc cette jeune femme, c'est une rescapée juive d'Auschwitz-Birkenau qui a été arrêtée à Bolène en mars 1944, alors qu'elle a 15 ans pour quelques jours, qui se retrouve internée dans la prison Sainte-Anne d'Avignon, au Baumettes de Marseille, puis déportée de Drancy à Auschwitz. Et quand elle revient évidemment en France, dans le contexte que vous savez, c'est-à-dire un contexte où d'anciens, ou enfin les nouveaux survivants essayent de parler, certains parlent, mais il y a un dispositif social qui ne leur permet pas d'être écoutés, donc ils retiennent en quelque sorte cette parole. Et donc pour elle, ce qui est de très nouveau, mais aussi pour le cinéma et aussi pour l'histoire, c'est que finalement, dans cette recherche de la vérité, on arrive à faire qu'une première déportée juive rescapée de France parle au cinéma, alors dans ce cadre-là, de ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est une chose, vraiment, il n'y a pas d'équivalent à ce moment-là. Et ce qui est aussi très beau pour l'histoire, pour le vécu et pour le cinéma, c'est que, comme vous savez peut-être ou pas, cette jeune femme est devenue une femme de cinéma. Alors là, elle rentre dans le cinéma, mais elle est devenue ensuite complètement toute sa vie, contrairement à tous les autres personnages, jusqu'à la fin de sa vie, une femme de cinéma, puisqu'elle a été, elle est d'abord partie avec Jean-Pierre Sergent, que vous voyez dans le film, tournée en Algérie en 62, dès l'indépendance de l'Algérie. Et puis, elle a rencontré Yuri Sivens, qui était aussi quelqu'un qui était produit par le même producteur Argos Film, et dont les films sont aussi présentés dans la rétrospective, et qui, avec qui elle a un coup de foudre, et c'est réciproque, et ils font toute leur vie de cinéma. Donc, lui est un grand, grand documentariste hollandais, et elle va être preneuse de son sur ses films, et elle fera ensuite, elle, son premier film de cinéaste en son nom propre à l'âge de 75 ans. C'est un film qui s'appelle La petite prairie au boulot en 2003 et qu'elle tourne dans Birkenau et qui est une sorte d'autofiction où Anouk Aimé va jouer en quelque sorte son propre rôle. Donc c'est vrai que dans le film, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une espèce de dramaturgie de son apparition à l'écran, voir comment finalement elle apparaît progressivement, mais aussi en écoutant les rushs, qu'est-ce qui s'est vécu entre eux trois et avec l'équipe pour que finalement elle arrive à trouver un mode d'énonciation tel que vous l'avez entendu dans le film. Et puis ensuite, je n'ai pas pu, c'était aussi Morin qui disait ça, ce film, ça sera, il n'y aura pas de mot fin. Alors finalement, il y a un mot fin, mais lui disait il n'y aura pas de mot de fin, il y aura un à suivre ouvert sur chacun. Et donc j'ai suivi un peu son précepte. Et une fois que j'ai dramatisé en fait la présence de Marceline Loridon, j'ai voulu savoir d'où elle parlait, et donc j'ai refait la trajectoire depuis Bolène 44. Et donc finalement, sur la partie chronique, le passé Auschwitz, c'est à l'arrière, hein, c'est vraiment le passé, mais ensuite c'est l'inverse. En refaisant sa trajectoire, c'est chronique d'un été qui devient le futur, et ça, je pense que c'est important pour ces trois choses que sont là, notamment le vécu, le cinéma et puis l'histoire et la mémoire, c'est que finalement le cinéma a été aussi une source de résilience pour cette femme. Il n'y a pas d'autre rescapée juive de France qui est devenue une femme de cinéma, et en un sens c'est Rouch et Morin, cette vérité recherchée, qui ont trouvé finalement que ce film pouvait être aussi un espace d'accueil. Et ça, c'est très singulier aussi.
Je crois que c'est... Oui, je suis même sûr. Dans ton livre, tu... Parce que quand le film est sorti, parmi les reproches qu'on faisait au film, c'était beaucoup des reproches que les acteurs, entre guillemets, font eux-mêmes à ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire la question de la pudeur, l'impudeur, l'exhibitionnisme, l'obscénité. Et tu dis très bien que, par exemple, pour ce qui est de Marceline Loridan, ce qu'on considère comme de l'impudeur était en fait un mot qu'on ne savait pas employer, ou qui était tout simplement une force de témoignage. Et que effectivement là, si on remplace l'impudeur par le témoignage, tout d'un coup la perspective est totalement renouvelée. Et puis l'autre chose à laquelle je pensais en t'écoutant, c'est que il y a eu effectivement une sorte de conflit visiblement mais productif entre Morin et Rouch. Et quand Rouch a vu ce que Morin avait tourné, il trouvait que ce qu'il avait tourné était triste. Et ce qui explique aussi qu'il y ait des scènes plus dynamiques, plus marchées, plus enlevées. Et est-ce que d'une certaine manière, même si elle est évidemment très chargée, la scène, le moment de Marceline Loridan où elle marche à la Concorde puis les Halles, où elle est en mouvement, où c'est un choix dynamique, c'est-à-dire aussi là la technique à ce moment-là permet de la suivre, est-ce que justement il y avait cette idée de la mettre en mouvement pour que ça en quelque sorte la parole s'engraine dans cette marche, et que justement rompre avec le statisme du film pour que là il y ait quelque chose de dynamique.
Je pense qu'effectivement ça c'est très présent. C'est présent de la part des deux cinéastes, mais c'est présent aussi de la part d'elle-même, de Marceline Loridan, dans la mesure où c'est un film qui est traversé par beaucoup de références à des films documentaires Renaudet au début, mais à beaucoup de films de fiction. Et en fait, ce même producteur, donc Argos Humantol-Daumont et Philippe Lifshitz à l'époque, ont déjà fait paraître, peu de temps avant, Hiroshima, mon amour, où Emmanuel Riva déambule en marchant la nuit à Hiroshima et se remémore. Il y a aussi un film qui marque beaucoup l'équipe de Chronique d'un été, qui est L'Aventura d'Antonioni, et où on a aussi une instance de femme comme ça qui déambule et qui se pose des questions. Donc c'est à la fois une manière en effet de lui laisser un espace à elle pour pouvoir livrer cette intimité-là, mais c'est aussi des références de films très fortes qui les travaillent et qui font qu'ils arrivent peut-être aussi chacun à leur endroit différent à trouver un mode d'expression. Et on peut rajouter un troisième film, qui est un film qui s'appelle Stern, l'étoile, et qui est un film qui a été fait en RDA et en Bulgarie, et qu'en fait Edgar Morin, Marceline Loridan-Evans et Marie-Lou ont vu en février 59. Et on voit une jeune femme, c'est très étonnant parce qu'elle est quasiment coiffée comme Marceline Loridan-Evans dans ce film, et c'est une jeune juive qui est en fait dans un camp, mais qui tombe amoureuse, une fiction, pardon, qui tombe amoureuse d'un Allemand, et la nuit, il se promène, et il marche, et elle a toutes sortes d'évocations. Et donc, il y a effectivement beaucoup de matériaux cinématographiques intégrés par ces gens qui connaissent bien le cinéma, pour trouver, c'est vraiment une compétence à mode d'expression. Et puis, on peut ajouter que Marceline Loridan a aussi une compétence aussi du savoir de où en est aussi la parole des déportés ou des rescapés, puisque ce n'est pas dans le film, mais c'était un temps contemporain du film. En fait, Adolf Eichmann a été capturé par le service secret israélien en 1960. Et le 11 avril 1961, commence à Jérusalem et couvre toute la période, notamment du Festival de Cannes, où Marceline Loridan-Evans présente Chronique d'un été. On a donc en fait Adolf Eichmann jugé en Israël, et c'est vraiment en quelque sorte le premier procès de témoins. Il y a 111 témoins qui viennent à la barre et faire en quelque sorte le récit de la Shoah. Donc Marceline n'est pas convoquée, il y a un seul Français, c'est Georges Wellers, mais on commence effectivement à ce moment-là à être dans ce que Annette Wieworka appelle l'ère du témoin. Mais vraiment, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est tous ces toute la manière dont la machine n'est pas encore huilée. Quoi. Chacun, en quelque sorte, cherche sa voie dans un contexte qui les structure et puis un contexte qui les dépasse. Est-ce que Nadine nous dirait un mot ?
Parce que Nadine Ballot, qui est là et que vous avez vue dans le film, c'est entre autres la jeune femme qui accompagne Marceline Loridan et qui porte le magnéto quand il s'agit de savoir si les gens sont heureux.
Et qui regarde la tauromachie aussi à Saint-Jean-de-Luz avec Landry.
Et qui se baigne à Saint-Tropez.
Oui, aussi.
Oui, mais enfin bon... C'est...
Non, c'est pas le qui fait du ski.
Non, mais il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement. On entend là ?
Oui.
Non, mais c'est un grand bricolage, hein, ce film. En réalité, il y a des tas de choses, comme vous l'avez dit, qui ont été tournées avant, qui sont montées après, et tout ça. Et c'est vrai qu'Edgar n'était pas du tout d'accord avec la façon que Rouch avait de filmer les choses et l'esprit pour le faire. Il faut dire aussi que c'est vrai, il y a eu plein d'opérateurs et qu'il y a des plans qui sont, ceux de Renault sont extraordinaires. Ils sont tournés par Raoul Coutard, qui était un grand opérateur à l'époque. C'est vrai que les images sont sublimes. Enfin bon, bref, il y a tellement de choses à dire, mais c'est vraiment un grand bricolage, ce film. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je ne sais pas, ce n'est pas très intéressant.
La pyramide humaine, peut-être que tu peux dire que dans ce film, il y a un autre film et que tu es une des actrices de cet autre film.
Par exemple, les deux Africains qui sont dans la scène de... Alors, c'est sur la terrasse du Musée de l'Homme. Et il y a Landry et il y a Raymond. Et ce sont des camarades de classe d'Abidjan, un film qu'on avait tourné en 59 avec Rouch. Tellement longtemps avant Chronique.
Donc la pyramide humaine.
La pyramide humaine, oui. Et je ne sais pas si je vais le dire, mais Landry, la scène entre Landry et Angelo, elle est complètement construite. C'est bien. Enfin, Landry, il ne sait pas trop quoi dire, en fait, parce qu'Angelo, lui, il a un vocabulaire direct, une façon de parler. Oui, alors, ah, oui, gna gna. Et Landry, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et lui, il avait débarqué à Villeneuve-sur-Lot, il n'était pas à Paris, ni à... Zuzine Renault, c'était à Puteaux, je ne sais plus où, enfin, bon, bref, c'était en banlieue parisienne. Et ce n'est pas
Billancourt.
Du tout le même... Pardon ?
Billancourt, non ?
Clamart.
À Clamart.
Ou à Clamart, enfin bon, bref. Tout ça, c'est un petit peu artificiel. Je ne sais pas si ça se voit. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça se voit, dit une jeune femme qui est là, une jeune fille.
Que c'est joué ou que...
Merci. Sur le moment, je ne sais pas si je dirais que c'est joué. C'est juste... On voit qu'il y a une partie, il y a vraiment un interlocuteur et... Angelo qui parle et en face, bah, c'est juste un interlocuteur en fait. On lui laisse pas non plus trop la place de parler, même si Angelo a beaucoup de choses à dire. Mais justement, les questions même sont assez rhétoriques. C'est-à-dire, c'est comme si quand Angelo pose une question, c'est surtout pour y répondre lui en fait juste après. Mais ça a son charme aussi. Mais c'est sûr que c'est pas très authentique, je trouve non plus.
Il y a une scène quand même qui est très importante, c'est celle dont Rouge demande aux deux Africains, est-ce que vous savez ce que c'est que ce numéro que Marceline porte sur le bras ? Mais c'est vrai qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas qu'on tatouait des numéros sur les gens qui étaient déportés. Ça, c'était très, très émouvant. Mais à la fois, il y a du rire aussi, puisqu'on parle de, ah oui, les Africains, ah oui, ben, on les aime parce que quand ils dansent, ben, ils dansent bien. On aimerait que, Landry dit, on aimerait qu'on les aime pour autre chose que leur façon de danser. Ça, je trouve ça formidablement prenant, parce que c'est vrai, ça correspond à une réalité à l'époque, surtout. Et puis, enfin, il y a plein de choses. Il y a la guerre d'Algérie aussi, c'était très très important à l'époque. Alors il y a comment il s'appelle notre cher et qui est toujours de ce monde, contrairement à beaucoup de tous ces camarades qui sont morts, Régis Debray. lui, alors quand il parle comme ça, avec son ton, etc. Mais c'est vrai, quand on pense à ce qu'il a fait après, qu'il est parti en Amérique du Sud et qu'il a été emprisonné pendant plusieurs mois et que sa mère, qui était une grande bourgeoise, a remué tout Paris pour aller le prendre dans la prison et le sortir de prison. Tout ça, c'est extraordinaire. Il faudrait faire un autre film là-dessus. Enfin, il me semble. Hein.
Mais là, pour Régis Debray, c'est quasiment... on assiste à l'archéologie de son engagement. Enfin,
tout
c'est...
à fait, tout à fait. Et oui, et puis alors, ces histoires avec... comment il s'appelle ce héros-là, aux cheveux, machin, qu'on voit dans toutes les... Comment il s'appelle ?
Le Che.
Oui, le Che Guevara.
Le Che, oui.
Le Che, bon, alors maintenant, quand je vais dans des manifs et que je vois qu'il y a des portraits du Che partout, il faudrait dire ce qu'était vraiment Che Guevara. Bon, étudiant en médecine, bourgeois, machin, enfin bon, toute une histoire aussi à dérouler. Il faudrait faire un autre film, tiens, sur Che Guevara.
Mais je pense que c'est aussi important ce que tu dis sur la potentialité d'avoir rejeté des choses qui anticipent. Peut-être que Landry et Raymond ne savent pas ce qu'est le numéro de Marceline, mais elle-même a été confrontée à cette interrogation par d'autres personnes qui n'étaient pas africaines avant, mais aussi la presse à la sortie, en fait, parfois ne comprend pas, parce que la connaissance que l'on a aujourd'hui, la différence entre système concentrationnaire et d'extermination n'est pas du tout claire. Les Français pensent beaucoup plus à Ravensbrück ou à Buchenwald, et donc on pense que c'est une déportée qui revient parfois de Ravensbrück, ce qui est impossible, puisque le Picot n'était fait qu'à Auschwitz. C'est la raison aussi pour laquelle il y a cette partie très historique dans le film, c'est effectivement de dire la vérité du sujet, c'est ce qu'ils ont vécu. Mais la Shoah, ce n'est pas du cinéma. Et donc, effectivement, avoir aussi une partie qui revienne vraiment donner dans le livre, pardon, dans la deuxième partie du livre, qui vienne vraiment dire, en effet, ces personnages qui sont là et qui prennent le temps pour que nous, à leur tour, on passe ce temps ensemble, 1h26 de film, ont vécu des choses. Et ça, pour le coup, ce n'est pas du cinéma. Là, ils interprètent d'une certaine manière, ou qu'ils jouent, qu'ils cabotinent, que sais-je, mais que faire, enfin, je veux dire, chacun de nous devant une caméra, comment on s'en sort, ça c'est aussi la vérité du film, de dire c'est pas facile, en fait, tout simplement de continuer à parler, ou tout simplement de prendre la parole, ou savoir comment mettre son visage quand on filme. Mais c'est pas du cinéma, et j'ai la dernière chose que je dirais dans ce sens-là, c'est que si on se situe plus dans une histoire justement de l'apparition des témoins de la Shoah à l'écran, c'est presque un film qui préfigure en fait celui de Lanzmann sur la manière dont il organise justement le rapport entre la parole et la spatialisation et la structuration par les lieux, et le fait que notamment le début de la remémoration de Marceline passe par la Concorde, qui était un lieu où effectivement il y avait pendant l'occupation allemande en fait des catafalques allemands, il y avait des lettres qui étaient écrites en allemand, enfin il y avait vraiment un décor allemand en France qui existe. Et donc cette évocation, elle passe par des lieux qui sont chargés dans la réalité de cette histoire-là, ce que fera ensuite Lanzmann en demandant aux gens de parler dans des lieux structurants et non plus de faire des films d'archives, ce qu'avait fait Argos avant, avec Nuit et brouillard en 1955, où pour parler de cette histoire-là, il fallait au contraire montrer des documents.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interprétations ou interrogations ? Oui.
Une toute petite question, parce que je ne connais pas bien l'histoire du film, même s'il l'est vu après. Est-ce que la scène de dialogue à la fin entre Morin et Rouche est due à leur différence, ou est-ce qu'elle a été pensée? Enfin, je voulais savoir un peu, parce qu'elle vient en conclusion et elle montre bien leur différence de point de vue, justement. Mais quand est-ce qu'elle a été pensée? Quand est-ce qu'elle a été filmée? Enfin, filmée, oui. Mais...
Une très bonne question. Donc, c'est une scène qui a été créée, c'est la seule scène qui a été créée après Cannes, justement en réaction à des spectateurs et des journalistes à ce moment-là, en se disant qu'il fallait revenir sur l'expérience du début pour s'en ressaisir. Donc en fait, on fait un peu semblant dans le montage de penser qu'ils parlent en sortant de la projection, mais il y a quasiment 8 mois qui s'écoulent, ça vous l'avez repéré, ils sont habillés raccord, mais c'est pas du tout la saison. Et puis en effet, la différence de point de vue qu'ils pouvaient avoir eux au début, c'est accusé à ce moment-là une tension qui fait qu'en effet, vous l'avez bien perçu. Et ça, c'est aussi une des vérités du film. On sent ça finalement, et il ne le joue pas, et on sent bien cet écart que vous avez bien identifié.
Et c'est une scène qui est tournée avec le nouveau matériel. C'est-à-dire que là aussi, c'est non seulement un film, voilà, c'est un film qui est fait, mais c'est un film tout le temps en train de se faire. Et on peut dire que ce film s'est terminé techniquement différemment de la manière dont il avait commencé, puisque là, c'est il filme avec ce qui sera l'éclair 16 fabriqué par Coutant et qui permet qu'il n'y ait plus de fil entre le magnéto et l'image et l'enregistrement de. Et c'est ça qui va être la révolution technique qui va par exemple permettre le Jolimé, le film de Chris Marker et Pierre Lhomme en 1962, donc 2 ans après, qui appartient disons aussi à ce corpus du cinéma vérité ou direct. Donc c'est et en même temps que cette scène a été rajoutée à la toute fin pour les raisons que tu dis. Elle s'intègre parfaitement, je trouve, au film, puisqu'elle est comme la réponse à la scène d'introduction où Marceline se retrouve entre les deux et qu'en quelque sorte, il donne la règle du jeu. Et à la fin, il tire les conclusions. Et j'avais même lu que, alors peut-être que ça, toi, tu peux dire, dans les rushs ou dans les différents montages, il était prévu, ou il a été filmé ou monté, qu'à différents moments du film, Rouch et Morin, entre guillemets, faisaient le point sur le processus en cours. Et donc là, il reste quand même le prologue et l'épilogue.
Oui, oui. Ce qu'on peut peut-être dire, parce que tu parlais du Jolimé, c'est que la technique va avancer aussi très très vite. Et dans ce film, vous l'avez peut-être aussi perçu, en fait, il n'y a pas la vérité. C'est que l'image et le son sont enregistrés au même moment. Effectivement, ce n'est pas de la reconstruction en studio, une ou deux phrases. C'est du son direct. Mais surtout, le son direct est pris au moment de la prise d'image, donc c'est vraiment la vérité du moment. Mais par contre, il n'y avait pas de raccordement, de synchronisation effective. Donc en fait, il y a eu 3 monteurs au moins qui se sont succédés et qui ont dû resynchroniser image à image les moments labiaux. C'est pour ça qu'en fait, on ne voit pas toujours, on sent qu'il y a de la vérité de ce qui est dit, c'est ce moment-là, mais vous ne voyez pas toujours exactement les personnes parler avec une énonciation labiale raccord, parce qu'en fait, ça demandait un tel travail de le faire qu'il fallait qu'à certains moments, justement, on comprenne que c'était ce moment-là, sans forcément qu'on raccorde à la bouche, parce que c'est un travail absolument démentiel. Et par contre, ça ne s'est pas retourné contre le film, alors qu'un film comme celui de Jacques Rosier, Adieu Philippines, qui a eu ce même type de problème, ça a été complètement utilisé dans la presse en disant qu'est-ce que c'est que ces amateurs qui font dépenser de l'argent aux producteurs. Alors que ça, c'est intéressant, c'est que pour Chronique d'un été, ça n'a pas du tout été un argument contre le film du tout, ça n'a pas du tout existé.
Je rebondis, j'ai l'impression que ça fait aussi partie de l'identité de l'œuvre de Jean Rouch, en fait, cette idée de synchronisation, désynchronisation du son qui est direct, qui peut être mis, je pense à d'autres films dont j'ai pas forcément tous les noms, pas forcément Moi en noir, mais d'autres films où c'est vrai qu'il y a des moments qui sont totalement désynchronisés et qui en fait, qu'ils soient désynchronisés ou qu'ils soient synchronisés, veulent dire à peu près la même chose. Et enfin, je sais pas si je suis cohérente dans ce que je dis.
En tout cas, c'est le rapport entre la vérité et la réalité. C'est-à-dire, pour accéder à une vérité, il faut parfois tricher avec la réalité.
C'est super intéressant ce que vous disiez sur cette fameuse scène avec le numéro. Moi, c'est une scène qui me touche énormément. C'est la troisième fois que je vois le film. Et en fait, c'est ce que vous dites, comme quoi il y a, comment dire, c'est la réalité, c'est-à-dire c'est la vérité. Et au-delà du cinéma vérité, nous, on l'entend beaucoup, on l'a beaucoup entendu en école de cinéma. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il veut véritablement dire, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur une conversation où des personnes découvrent le récit d'une personne. Et en fait, ça, c'est tellement intime que ça ne l'est pas, en fait, au final. C'est ce qui s'est passé pour plein, plein, plein de personnes. Et ça constitue, ce récit-là intime constitue le récit d'une mémoire qui est en train de se fonder à cette époque-là, et je trouve ça juste, je voulais juste revenir là-dessus, c'est vraiment magnifique ce que fait ce film avec ça, en fait, je trouve.
Et je pense que c'est important aussi sur leur différence de point de vue entre Jean Rouch et Edgar Morin, parce qu'Edgar Morin, il avait cette idée de plus ça va durer loin dans la nuit, plus on va remplir les verres, plus on va poser des questions, plus on va craquer, plus ça va être vrai. Et notamment cette scène dont vous parlez là, il aurait voulu que ça continue. Et Jean Rouch disait, mais en fait, qu'est-ce qui se serait passé de plus? Elle aurait pleuré, et alors? En fait, pour lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut non, plutôt être du côté de l'image, et donc du côté de l'évocation. C'est pour ça que c'est très intéressant dans les discussions qu'ont eu aussi dans le cadre de cette rétrospective première partie, c'est qu'effectivement, on voit que c'est des questions de cinéma et des questions, effectivement, de la vérité des sujets, en fait, qui sont impliqués dans le cinéma et qu'en fait, on dit mieux en en disant moins. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très belle dans ce film, c'est qu'on voit ça. Parfois, on en entend trop. parfois on en voudrait en savoir un peu plus, et je trouve qu'ils arrivent à et ça c'est la vie, vous voyez, et c'est aussi la mise en scène, quand est-ce qu'on coupe et quand est-ce que nous on va s'arrêter là, Bernard, c'est vrai, oui c'est une question, et donc c'est ça, c'est une chose vraie du vécu et du film qui est vraiment bien saisi dans Chronique d'un été, et dans lequel Marceline Loridon s'est vraiment beaucoup engagée, et dans lequel Nadine a aussi payé son écho.
Frédéric parlait du film de Séverine, du livre de Séverine Graff. Il faut vraiment le lire, ce livre de Séverine Graff qui s'appelle, je crois, Le cinéma et vérité, parce que elle parle de tout ça et elle en parle très 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 bien. Il faut vraiment.
C'est vraiment une mine d'informations et de renseignements sur cette période du cinéma vérité qui va de 60 à 65. Alors,
cinéma vérité,
on
a beaucoup. Il y a des gens qui appelaient ça le cinéma mensonge et tout ça. Bon, bref. Non, elle dit ça très, très bien. Alors, juste une petite chose, c'est que ce film, au final, il fallait qu'il soit rentable pour Anatole Daumont, le producteur. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu faire une version qui ne soit pas trop longue. Et là, c'était dramatique entre Rouch et Morin, parce que qu'est-ce qu'on allait enlever pour que ce soit suffisamment... Et puis surtout, la censure. Il ne faut pas oublier, tu en as parlé, il ne faut pas oublier la censure. Et c'était terrifiant, la censure. Donc, il ne fallait surtout pas qu'on puisse dire « Ah non, 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 ce film, on ne le présente pas ». De toute façon, je ne sais pas, il a eu beaucoup d'entrées, ce film, à sa sortie ou pas ? Je ne me souviens plus.
Très, très, très peu.
Très peu, hein. Non, très ça n'a pas du tout marché, ça n'intéressait personne.
En fait, c'est un film qui a marché avec les années.
C'est ça, avec les années, oui,
absolument.
Oui, avec le recul, bien absolument. Sûr. Et d'ailleurs, il est intéressant avec le recul.
Mais qui a suscité, au moment où il a été montré à Cannes, oui. une presse à la fois critique ou laudatrice, mais une presse énorme.
Énorme,
c'est-à-dire
oui,
que
oui,
fait... inversement proportionnel à son succès en salle. Mais oui. En tout cas, ça a beaucoup, beaucoup intrigué. Quoi.
Oui. Encore une fois, Anatole Daumont est un producteur de très grand talent. Et c'est quelqu'un qui montait des campagnes de presse, qui était très entouré aussi du côté de la presse, mais du côté d'intellectuels. Il montrait ses films à des gens qui, effectivement, allaient ensuite écrire,
rôler, voilà.
Etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui savait faire exister les films. Et c'était une partie de son travail et de sa singularité, en fait. Aucun de ses films, quasiment, n'est sorti dans l'indifférence.
Après, le succès public, effectivement, c'est une autre temporalité.
Évidemment, je revois le film, je crois que je ne l'ai pas revu depuis... des années, enfin, très 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 longtemps. Et là, je trouve qu'en le revoyant, je me suis dit, mais c'est un film joyeux. J'ai vu vraiment comme un film léger, joyeux, où Rouch a gagné sur Morin. Parce que, en dehors des séquences où tout le monde boit, etc., y a, comme vous dites, tous les problèmes. Enfin, excusez-moi, je sais que j'ai peut-être un petit peu dormi à l'époque, mais les vrais problèmes de l'époque sont occultés. Hein, pour rester dans une espèce d'idée de bonheur. Et je trouve que le bonheur transparaît dans ce film, je me disais, par rapport à aujourd'hui, même si la guerre d'Algérie, le Congo, etc., on a l'impression que, bon, c'est vrai que la plupart des gens dans le film sont jeunes, et Morin et Rouch sont encore une quarantaine d'années, sont jeunes, mais, comment dire, en dehors de la séquence dramatique et sur Marceline Loridan dans les Halles, où elle dit des choses, ça arrive un petit peu, je m'excuse, en le voyant, je trouve que ça arrive presque comme un chapeau sur la soupe. Pardon. Oui, parce que on est tellement loin de tout ça. On est tellement loin, etc. Et c'est vrai que dans les années 60, on n'en parle pas. Hein, revoyant le film aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu étrange. Voilà ce que je veux dire. Alors après, évidemment, on connaît l'histoire de Marceline Loridan. Après, je pense que selon la mémoire de chacun, hein, le film est vu très, très différemment. Parce que là, je trouve que ça fait très film de copains, excusez-moi. Film de copains avec... la plupart des protagonistes sont des copains de Rouch et Morin. Et il y a quelque chose, effectivement, avec le temps, je trouve qu'il y a une espèce de légèreté qui est excessivement agréable, même si tout ce qui est dit n'est pas léger. Mais vous voyez, une espèce de capacité de bonheur et d'art. Je trouve là aussi le tempérament de Rouch qui était comme ça, vraiment rigolard. C'est ce qui transparaît. C'est moi ce que j'ai revécu aujourd'hui.
Ce qui est vrai, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand Rouch pose une question, c'est tout son visage qui s'éclaire. Il a une façon de parler ou de s'adresser à quelqu'un où d'emblée, il sourit. Même quand il dit « Landry, on va poser une question, est-ce que tu sais ce que c'est le numéro sur le bras de Marceline ?» Et il a une expression absolument séduisante.
On peut peut-être dire que, pour revenir au tout début des questions que tu as posées, dans la méthode initiale, Rouch devait jouer le rôle du sociologue. Donc il y avait vraiment le cinéaste et en fait, Rouch n'avait pas de rôle dans le film, mais Morin devait jouer son propre rôle. Donc en effet, ce mode d'adresse, c'est à la fois lui, mais c'est vraiment parce qu'il doit être là tout le temps normalement à l'image. Donc il avait quelque chose de lui, de la préparation. Alors qu'est-ce qu'on se prépare pour la scène ? Lui devait le faire d'une certaine manière qui n'était pas celle de Rouch.
On pourrait continuer, mais il faut savoir. Oui, eh ben, j'allais conclure par là. Donc, le livre de Frédéric Berthet s'appelle « La voix manquante », paru chez POL. Et comme on fait bien les choses, il y en a plusieurs exemplaires à la librairie de la Cinémathèque. Frédéric est là encore un petit moment dans les murs. On n'a pas organisé de signature. Mais enfin, si quelqu'un le souhaite, elle pourra le dédicacer ou mettre un mot. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric.
Merci, beaucoup,
merci
Bernard,
mille fois.
Merci à vous. Merci.
C'était les podcasts de la Cinémathèque française.